aujourd'hui. Ce sont les premiers résultats d'une enquête de terrain qui a débuté il y a une petite année et qui m'a emmené dans les ateliers de nombreux taxidermistes, essentiellement en Belgique et en France, donc dans le domaine francophone. Alors c'est important de le préciser. Et c'est aussi important de préciser que je vais essayer d'aborder la question du point de vue du taxidermiste, ce qui n'est pas très fréquemment entrepris jusqu'à présent. Alors, en quoi est-ce intéressant d'aller voir chez les taxidermistes ? Eh bien, je pense, comme Suzanne Lestarck, c'est intéressant d'aller voir comment la science se fait, et notamment comment elle nous dissimule, en l'utilisant comme bourrage, tout ce qui constitue les détritus de son travail, et qui sont généralement pas précisés dans les exposés ou dans les écrits que l'on vous donne après sur les résultats de ce qui se fait. Alors j'ai perçu les ateliers des taxidermistes d'abord comme un entremonde et je vais essayer de vous montrer pourquoi avec un exemple bref. Voilà, si nous nous plaçons du point de vue de l'atelier du taxidermiste ici, il s'ouvre assez naturellement sur le monde de la chasse. Je dirais que c'est son pourvoyeur de travail le plus spontané. Mais aussi, et l'exposé de Julien vient bien de le montrer, sur le musée d'histoire naturelle, quelquefois conjoint, souvent conjoint avec le musée d'ethnologie. On sait que ce musée d'histoire naturelle demande maintenant aux taxidermistes des choses qu'on ne lui demandait pas avant, c'est-à-dire la reconstitution d'animaux disparus. Mais j'y reviendrai. Le même atelier du taxidermiste s'ouvre aussi sur le musée d'art depuis peu, car la taxidermie revient en force dans la création contemporaine. Et bien sûr, il s'ouvre sur les demandes des particuliers et également sur le monde de la publicité et du cinéma. Donc, on a affaire à un univers très réseauté, très, très singulier, où se croisent des personnes qui ont des besoins, des intentions, des demandes extrêmement différentes. Alors, pour vous montrer ça d'un peu plus près, j'ai décidé de déployer ce qui part du musée d'histoire naturelle, justement. D'abord avec la demande classique du diorama qui servait à la pédagogie publique, mais aussi à la demande des scientifiques, c'est-à-dire celle des animaux en peau, que le public ne voit pas et qui sont très nombreux dans les réserves pour permettre de travailler. Donc ces animaux-là, on ne leur rend pas une forme. On se contente de conserver toute l'extériorité, toute la physicalité de l'animal pour la réserver à des mesures de toutes sortes. Ensuite, je vous l'ai dit déjà, il y a des reconstitutions d'animaux disparus. Le cas du dodo est tout à fait emblématique, évidemment. Il y en a plusieurs qui ont été reconstitués. Le plus célèbre, celui-ci, a été réalisé par un taxidermiste belge qui s'appelle Pierre-Yves Rinquin. Les muséologues, de leur côté, ont des demandes parfois encore plus singulières. Pour l'exposition Dragon du musée d'histoire naturelle de Paris, on a demandé à Jack Tinney de réaliser avec des pièces éparses d'animaux une chimère, c'est-à-dire un dragon tel que les scientifiques l'imaginaient. La commande était très, très précise. Il avait très peu de liberté de réalisation, finalement. Et enfin, toujours dans le musée d'histoire naturelle, il y a la question de la restauration des spécimens historiques. Ici, Zarafa, la girafe de La Rochelle, qui était celle de Charles IX, mais il y en a d'autres, puisque on connaît aussi le travail réalisé sur le rhinocéros de Louis XV. Ce rhinocéros est en fait le premier à avoir été taxidermisé et il est aussi un des premiers à avoir été réalisé sur mannequin. On l'a ramené depuis Versailles vers le muséum et on a découvert par radiographie la façon dont il était réalisé, sans doute avec l'aide d'un tonnelier pour la masse du corps et avec les pieds d'une table de chêne massive, ce qui lui donne un écartement de pattes assez singulier quand on le voit de face. Alors quand on se penche sur ces questions, on est amené à constater qu'on a affaire à deux aspects du problème qui sont intimement liés. D'abord, il y a une mutation des techniques et d'autre part, un métier que j'appellerais sans cadre, mais c'est, je serais presque tentée de dire, si ce n'était excessif, que c'est un métier qui n'existe pas. Vous pouvez le trouver dans les annuaires commerciaux, mais il n'y a pas d'école pour ce métier, en tout cas en Europe et en zone francophone. Et il y a eu des tentatives. Hein. En France, il y a eu mise au point d'un CAP qui existe toujours plus ou moins virtuellement, mais avec deux candidats. Enfin, tout ça fonctionne très difficilement. Alors, les mutations techniques sont les suivantes. Quand on parle de taxidermie, beaucoup pensent encore en paillage. On pense bourrage à la paille ou bien bobinage avec de la fibre de bois. Mais on est évidemment passé au mannequin. En même temps, ce que je viens de vous dire du rhinocéros de Louis XV vous indique que ce passage au mannequin, il est très, très tôt dans l'histoire de la taxidermie. C'est tout début du XIXe siècle. Mais ça ne s'est vraiment répandu que beaucoup plus près de nous, à partir du moment où on a pu commencer, pour la taxidermie du tout venant, je dirais, à faire de l'industrialisation des mannequins. D'autre part, la paille, qu'on pourrait croire complètement désuète, la paille ou la fibre de bois, elle est toujours utilisée. Ça dépend pour quel animal on a à travailler et ça dépend quels sont les moyens du commanditaire. La nature en pièces détachées, eh bien, c'est celle des mannequins industrialisés. Elle est essentiellement issue d'ateliers de production américains et exportée en Europe. Et vous pouvez trouver dans les catalogues de ces différentes maisons absolument tout sur les formes des animaux les plus courants, des têtes de tailles différentes, des pattes, des langues, des oreilles, qui permettent à chaque taxidermiste de commander, ce qui lui permet de travailler au plus vite. Mais à côté de cette nature en pièces détachées, on trouve encore, et pour ma part, je prêche pour sa conservation, bien qu'elle soit, me semble-t-il, très menacée, un travail qui est un travail sur mesure. C'est-à-dire un savoir-faire qui a tendance à repositionner les urgences. Il fait des pièces uniques. Et donc, ce qui commande son travail, c'est vraiment un animal précis qui est à traiter à un moment donné. Et il faut le faire de toute urgence. On trouve également, dans le monde des taxidermistes, des matériaux et des outils qui sont toujours détournés. En général, en Europe en tout cas, les taxidermistes travaillent en trop petit nombre pour qu'on puisse trouver un fournisseur de matériaux qui les contente chaque fois spécifiquement. Autrement dit, ils vont aller chercher leurs matières et leurs outils chez les autres ouvriers, que ce soit le monde de l'isolation, que ce soit le monde de la construction ou d'autres encore. En fait, ils sont toujours à bricoler et ils pourraient presque être considérés comme des gens qui ont des pratiques de trickster. Ils glissent entre les catégories et les usages. Et Jack Tinney, du muséum, dit d'ailleurs « Le métier a des ruses avec l'utilisation originelle des matériaux. » Donc, ils vont chercher ce dont ils ont besoin où ils le trouvent. Alors, c'est un artisanat singulier qui n'a pas de statut spécifique. Dans la plupart des cas, on ne trouve pas de statut pour ces taxidermistes. Il y a parfois des syndicats embryonnaires qui fonctionnent vaille que vaille. La pratique est aussi très largement clandestine et pratiquée par des particuliers qui ne se déclarent pas nécessairement taxidermistes. Donc, on ne relève pas ou peu de formations officialisées qui soient intégrées dans un cursus. C'est plutôt de la transmission familiale. J'ai en tout cas rencontré un taxidermiste qui est actuellement la cinquième génération qui pratique ce métier en continu. Ils ont aussi une forme de compagnonnage, qui ne porte pas ce nom-là, mais ils forment eux-mêmes les personnes qui sont intéressées. Et puis, il y a des autodidactes qui arrivent quelquefois à d'aussi beaux résultats que des professionnels, de la vie des professionnels eux-mêmes. Ce sont des pratiques qui s'accommodent très mal de la fonctionnarisation et qui ont beaucoup changé dans l'image qu'on s'en fait aussi. Ceux des taxidermistes, je crois, qui correspondraient à l'époque dont vient de parler Julien, c'était le taxidermiste explorateur, naturaliste, chasseur, glorieux et réputé comme tel. Mais depuis cette époque, ils ont plutôt glissé vers le préparateur disqualifié, ou alors maintenant, tout récemment, vers l'artisan d'art ou l'artiste. Pourquoi expliquer, comment expliquer ce changement ? Eh bien, ils travaillent avec des ressources qui ne sont plus considérées comme consommables, ce qui était le cas au moment du statut de l'explorateur naturaliste-chasseur. On tuait un animal, on traitait, ça ne tenait pas, c'est pas important, on va en tuer un autre et on remplace. À l'heure actuelle, évidemment, il n'est plus question de fonctionner selon ce rythme-là. Alors, pour un rappel rapide, je vous ai quand même pris quelques images des techniques telles qu'elles sont utilisées. Voilà le mannequin de buffle tel qu'il serait réalisé sur une base de bois et une armature, ou le mannequin du même buffle réalisé en foin. L'un de mes taxidermistes m'a d'ailleurs dit qu'à l'époque où il travaillait en Angleterre, il y a peut-être une quarantaine d'années, il travaillait d'abord sur paille et que cela lui avait appris beaucoup de choses parce qu'on traitait chaque muscle l'un après l'autre. Donc ça suppose que pour réaliser en paille chaque muscle, il faut une connaissance de la morphologie qui est hallucinante. Alors là, je prends les photos que Jacques Weckmans a réalisées du travail de Tinet. Il l'a suivi pendant quelques mois. Il s'agissait de traiter un bouquetin qui avait fait une chute depuis le rocher du zoo de Vincennes, un jour de verglas. Même les bouquetins peuvent glisser. Et donc cet animal était un animal en très bonne santé, ce qui n'est pas fréquent parmi les animaux que doivent traiter les taxidermistes. Donc il a d'abord fait une silhouette, mais avant tout, il a fait une maquette que vous avez là en tout petit et que vous retrouvez tout au long du travail à côté de lui. Donc avant de commencer son travail, il réalise une petite sculpture qui va lui servir de guide. Et puis vous le voyez installer du polystyrène et le travailler avec une scie sabre pour obtenir, apparemment en une après-midi, la silhouette qui va lui servir de mannequin. Donc il ne commente pas son mannequin, il le fait et il le fait sur mesure. Voilà le moment où il pose le vêtement. Et alors là, le vocabulaire m'intéresse tout particulièrement. La peau a été tannée, il pose la cape. C'est donc bien un vêtement qu'il dépose sur ce mannequin que certains appellent âme. Ça ne me paraît pas un hasard. Alors voilà la finition. Vous voyez que la peau, une fois posée, est tendue avec des épingles. Et le temps qu'elle sèche avec une colle à prise rapide et sans rétractation. Et puis, il repeint les fanères, les muqueuses, pour leur rendre l'éclat qu'elles auraient au vivant. Alors, du point de vue des affects, ce qu'on découvre dans ce domaine, ce sont les développements de liens forts. Je voudrais quand même dire que je passe difficilement à la généralisation. J'ai vraiment affaire à une collection d'individus. Ils sont tous très différents. Mais tous, en tout cas, enracinent leur métier et leur intérêt dans une passion d'enfance. Et puis, dans un tête-à-tête, qui est une proximité incorporée. Et là, je vous invite à lire ce que dit Yves Gométou. Je suis un animal. Je crois que c'est la première chose qu'il m'a dit. Il faut une forte projection jusqu'à la position physique pour percevoir des points d'équilibre, le centre de gravité, tout ce qui est transcriptible. Quelque chose se fait à travers nous. Ils ont tous aussi la conscience de la fragilité conjointe des humains et des non-humains, et un très grand respect du non-humain. Respect qui se manifeste d'abord par l'observation et une documentation maximale. Ils veulent être absolument fidèles et, si possible, disposer de documents qui concernent l'animal là dont ils doivent s'occuper. Pas un autre animal de son espèce, celui-ci. Ensuite, ils procèdent avec empirisme et rigueur, de telle manière qu'ils maintiennent une très grande humilité vis-à-vis de cet animal. Ensuite, ce qui est important, c'est que, justement du point de vue du respect, tout raté est interdit. Il y a une forte responsabilité. On ne peut pas revenir en arrière dans ce métier, il faut anticiper. Et il faut ensuite se donner l'impératif de capter et d'être capté pour cela, c'est-à-dire de rejoindre la beauté. Avec toute la relativité qu'on peut donner à cette notion, puisque Rinquin dit « plus c'est laid et complexe, plus c'est beau, si vous avez la capacité de le restituer, plus ça devient compliqué et plus c'est magique ». Alors j'ai retenu aussi cette petite citation qui m'a été donnée par un d'entre eux pour rendre compte de ce qu'est leur métier. Il s'agit d'un extrait d'Éric de Lucade dans Le poids du papillon. Il dit « Sa vie, au gré des saisons, était allée avec le monde. Il fallait la rendre, froissée, après avoir été utilisée. » Il me semble qu'à travers ce que je viens d'esquisser, se marque un brouillage ontologique incontestable. Et donc, je me suis demandé ce que la pratique de la taxidermie faisait au naturalisme. Parce que c'est bien le naturalisme qui met en place cette pratique-là. On a affaire à ce que Suzanne Leistar appelle un objet frontière, c'est-à-dire un lieu qui est partagé, un arrangement qui permet à un groupe de travailler ensemble sans qu'il y ait de consensus préalable. On voit bien au musée que les demandes ne sont pas du tout les mêmes, les gens se regroupent, ils n'ont pas les mêmes, tout à fait les mêmes intérêts, pas tout à fait les mêmes demandes. Qu'importe, on travaille. Jack Tinney dit, et ça me paraît témoigner de ce glissement ontologique, les réminiscences de son statut d'être vivant sont-elles trop sensibles pour que nous éprouvions une singulière difficulté à accorder celui d'objet à un animal naturalisé? Et il réclame une charte pour le statut des non-humains naturalisés, en refusant énergiquement qu'on appelle ça des objets. Et il dit « Le questionnement n'est pas encore parvenu au niveau du muséum, et il ne comprend pas très bien pourquoi, mais pour lui, il est impératif de savoir de quoi on parle et de préciser cela dans un texte. » Yves Gaumetou, de l'autre côté, nous montre quelque chose d'encore plus spectaculaire en disant « Il y a des présences dans l'atelier, une collaboration qui nous échappe. En taxidermie, on travaille en collaboration avec la peau de l'animal qui nous a été confié. Je lui parle, je suis son assistant. S'il est venu jusque-là, c'est qu'il le voulait. » Donc ce que nous décrit Gaumetou, c'est une coprésence et une instauration qui advient à travers les deux partenaires. On est vraiment là très loin des codes naturalistes. Il y a en fait une tension très nette aussi qui se marque entre le généralisable et l'irréductible singularité de l'animal traité. C'est celui-là et ce n'est aucun autre. Alors il y a des choix qui s'opèrent dans la position que l'on va accorder à cet animal. Et là aussi, je vois une bipartite très nette. D'une part, un dynamisme subtil et retenu, et d'autre part, ce que j'appellerais la grâce suspendue de l'éphémère. On pourrait résumer les deux en opposant statique et dynamique, mais ce serait caricatural, parce que le dynamisme retenu, c'est bien un mouvement potentiel en cours qui va se produire, tandis que le dynamisme clair, lui, ne pose pas de questions de ce genre. Je reprends la maquette de Tinney, c'est un cas de dynamisme retenu. Tout se passe dans le bas des pattes, dans les derniers centimètres des pattes qui laissent entendre le mouvement que va adopter l'animal. Mais Gaumetou arrive à ce type de réalisation virtuose où on n'a plus un point d'appui que sur une patte arrière du guépard et tout le reste est suspendu. Ça donne un effet absolument éblouissant. Et vous retrouvez ça aussi dans ce qu'il a appelé le bond de la gazelle qui se trouve au musée de La Rochelle et où on voit un groupe de gazelles qui sont dans les différentes phases du bond et qui ont l'air d'être complètement dans l'air. Il n'y a pas de fil, vous ne voyez pas de clous. Elles passent d'un mur à l'autre dans le musée. Elles sont reliées les unes aux autres de manière très délicate. Alors, ce qui me semble, là, du point de vue du spectateur, c'est qu'il faut adopter ce qu'en a dit Baker. La chose que l'on voit, on voit tout de suite que c'est un animal. Mais l'expérience que l'on fait avec cet animal-là, elle est beaucoup plus difficilement analysable et reconnaissable. Et donc, on va voir certains taxidermistes glisser vers l'art animalier. Gaumetou, pour lui, ça ne pose pas de problème. Il dit, historiquement, l'artisan et l'artiste ne se distinguent pas. Ils font tous deux partie de la sous-classe des laborieux. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce sont vraiment ceux qui brassent la matière. Voilà un bronze réalisé par Gaumetou. Et quand il fait de la sculpture, il dit « Ah, ben là, je me permets tout parce que je peux rater. » C'est vraiment pas un problème, c'est bien plus facile que de faire de la taxidermie. Par contre, Tinney, lui, voilà encore Gaumetou, ici, qui travaille pour Gloria Friedman, une artiste contemporaine. le ballot de papier étant censé représenter ce que devient la forêt, et le cerf au brame déplorant ce qu'on fait de son habitat, évidemment. Mais ce type de situation où l'artiste commande un concept au taxidermiste amène Tinet à dire qu'il n'aime pas ça, parce que le taxidermiste se trouve instrumentalisé par l'artiste. C'est vrai que dans ce cas-là, vous voyez toujours le nom de Gloria Friedman, vous ne voyez pas le nom d'Yves Gaumetou. Rinquin, enfin, qui lui aussi passe vers la sculpture, depuis la petite maquette qui a servi, elle, à une taxidermie, on le voit évoluer vers une posture nettement plus sculpturale. Alors, ici, je reprends Rachel Polenken, qui a produit un très, très beau livre en histoire de l'art sur la question de la taxidermie, et qui souligne le fait qu'en dépit de la mort, en dépit de l'écorchage, en dépit du démembrement et du refaçonnage de l'animal, la forme émerge, quoi. Elle est forte. Et les yeux ont beau être en verre, l'animal revient. Et elle souligne que les animaux ne sont pas des entités fixées entièrement par les hiérarchies de l'ordre naturel, pas plus qu'ils ne le sont par les déclarations et les discours récents en politique et en culture, mais plutôt ce sont des forces provocantes qui sont impérativement physiques, présentes et sémantiquement ambiguës. Voilà, je conclurai là-dessus et sur le regard doux de cette girafe à Jacques Tinet.